Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans un monde nouveau, le magazine des mutations. Aujourd'hui en direct de Lyon, oui, pour le festival Les Nuits de Fourvière, dans un amphithéâtre romain. Il y a 75 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a vu surgir dans le grand théâtre les Perses d'Eschyle. Un espoir d'aller chercher dans l'antique culture l'énergie de construire celle de demain. Lui pense que ça n'est pas une affaire de riches ni de mondains et que la culture de demain est essentielle pour tous. Je parle de Woodkid, alias Johan Lemoine, artiste multipiste, encore nommé aux Grammy Awards cette année pour le clip de Goliath. How could you be so blind? Répète Woodkid dans ce titre, extrait de S16, son dernier album, toujours épique et décidé non pas à endormir les consciences dans un grand spectacle, mais à s'en servir du grand spectacle pour les éveiller. Il en fera la démonstration ce soir en concert aux Nuits de Fourvière et vient avant se prêter avec nous au jeu de l'entretien pour dire et décrire son monde de demain.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
Sur France Inter, on se projette jusqu'à 19h. voyage post-punk dans les entrailles du futur avec le très excitant groupe britannique Squid sur France Inter. Ce titre Narrator interroge la confusion croissante entre réalité et fiction. Squid, si ça vous dit, sera en concert au Botanique à Bruxelles le 8 octobre prochain et le 9 octobre au Trabendo à Paris. Attention, c'est à lui tout seul, un fleuron des industries créatives françaises. L'animation de films et de jeux vidéo, la réalisation de clips pour les stars de la pop mondiale, la composition de musique de ballet, de films et même de cérémonies de Jeux Olympiques, ce sera pour Paris 2024. Et puis la sortie d'albums instantanément cultes comme The Golden Age en 2013, écoulé à plus de 800 000 exemplaires. S16, son dernier album, est sorti en octobre et nous décrit le fracas du monde en y incrustant des diodes d'espoir. Woodkid, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre artiste du turfu, notre invité. Vous jouerez ce soir aux Nuits de Fourvière et en direct sur France Inter. Cet album, j'ai envie de dire, ce film, S16, oui, c'est le film de l'époque pour vous ?
C'est ma vision de l'époque, en tout cas, ou en tout cas ce que j'ai envie d'en dire. C'est une espèce de vision utopique, dystopique du futur, ouais.
Utopique, dystopique, c'est-à-dire pour expliquer, c'est-à-dire à la fois en s'enthousiasmant des possibles et en se désespérant de ce qui va mal se passer.
Ouais, la fascination des réalités possibles, des réalités parallèles possibles, aussi bien d'un point de vue intime que d'un point de vue environnemental, mais presque un peu politique parfois. Voilà, je suis fasciné par les grandes forces à l'œuvre, donc forcément les grandes forces, elles sont aussi fascinantes qu'elles sont repoussantes. L'album, il parle vraiment de ça, ouais.
Et il y a dans cet album donc une façon transfigurée, poétique, mais de parler en effet quand même de défis écologiques, de montée de l'extrême droite, de transformation aussi des industries. Et quand on est en plein soleil, là, il fait 35, on est heureux. Mais quand on annonce 45 à 50 degrés, les prochains pics de chaleur en France, un climatologue, Jean Jouzel, qui était interrogé récemment, quand on voit la situation au Canada, les morts des inondations en Allemagne, comment est-ce qu'en tant qu'artiste, voilà, on le ressent et comment est-ce qu'on transforme cette information ?
Alors, moi, je suis un artiste un peu particulier, je crois, parce que j'ai un petit peu un esprit scientifique en tout ça. En tout cas, j'essaye de comprendre les émotions et la musique par la science. Et je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup cru en la science. C'est une de mes ancres dans la vie. Donc quand on entend les experts dire des choses, moi je suis fasciné par l'intelligence et je suis fasciné par le savoir, donc j'ai plutôt tendance à les écouter. Ça me fascine qu'on ne les écoute pas, surtout.
Ça vous fascine qu'on ne les écoute pas, et aussi peut-être, comme le montrait Étienne Klein dans un livre récemment, qu'on pense qu'on sait. C'est-à-dire qu'il y a une, quand on interroge quelqu'un, par exemple, sur l'efficacité d'un vaccin, sans connaissance scientifique, il peut répondre à un sondage, alors que la première qui devrait venir, c'est « je ne sais pas ».
Oui, je pense que c'est pas difficile de dire je ne sais pas. C'est même assez réconfortant parfois. Moi, j'ai beaucoup appris avec le temps à dire je sais pas. Ça résout beaucoup de problèmes parfois dans les conversations.
Je ne sais pas. On va écouter Shift pour une première raison, qui est que vous ne jouerez pas ce titre ce soir en concert. Donc, on en profite maintenant et aussi parce que c'est un titre déclencheur. What have you done? Dites-vous dans ce titre, c'est à la fois une prière et une comète dans le ciel. What have you done? Vous mettez quoi derrière Woodkid, You Are
No One? Ouais, c'est une chanson qui est venue un peu comme un mantra. Je l'ai écrite en 2016, peu de temps après les attaques de Paris, celle du Bataclan. Et puis je sais pas, il y avait cette phrase qui me restait, que je crois que je l'ai mis dans un mémo d'iPhone. Je sais pas vraiment à qui c'était destiné. What have you done? C'était peut-être à nous, c'était peut-être à moi, c'était peut-être aux mecs qui ont débarqué comme ça, qui ont foutu le monde à l'envers.
Have you done? Ça marche aussi pour l'écologie. Qu'est-ce que vous avez fait du monde et de l'univers tel qu'il était?
Oui, mais beaucoup des textes de l'album semblent être adressés à quelqu'un, mais en fait, ils sont aussi beaucoup adressés à moi-même. Je crois qu'il y a beaucoup de textes qui sont, en fait, par exemple, dans Goliath, quand je dis How could you be so blind, peut-être que je me parle aussi un peu à moi-même.
Comment as-tu pu être aussi aveugle?
Ouais, je crois qu'il y a l'idée l'impossibilité de résoudre des problèmes au collectif si on ne les résout pas à l'individuel, envers soi-même d'abord. Donc Shift, il y a beaucoup de ça.
C'est donc un album qui se lit à l'échelle intime, comme vous l'avez dit, comme à l'échelle collective. Sur le plan collectif artistique, vous disiez dans une interview récemment, qui est dans un supplément du Nouvel Observateur sur le monde de 2039, que pour vous, il y avait un vivier créatif qui allait naître de cette noirceur, en fait, que ce soit celle de la pandémie ou du climat.
Je crois pas forcément que ce soit de la noirceur elle-même. Je suis pas forcément dans le fantasme de cette idée, bien que ma musique soit assez mélancolique, que tout émerge forcément de la noirceur ou de la mélancolie, mais je pense que d'un point de vue factuel, ça a changé les choses de manière assez drastique pendant un moment sur la manière dont on a abordé la culture. On est toute une caste, en fait, d'artistes à s'être fait traiter de personnes non essentielles. Je refuse de croire que ça ne génère pas quelque chose, que ça génère pas une certaine forme de colère ou une certaine forme de réponse.
Et donc une réponse créative.
J'espère bien.
La question, c'est sous quelle forme la création va se développer, puisqu'il y a des modifications de format, des modifications de diffusion, et ça vous inquiète dans ce que ça altère parfois les propositions artistiques.
Ce qui me questionne beaucoup de l'époque, et quelque chose quand même d'assez nouveau, c'est que les canaux de distribution, les plateformes, les médias, les réseaux sociaux influencent la création à sa racine. C'est assez nouveau quand même que les canaux de diffusion aient un avis, une opinion, ou en tout cas algorithmisent la manière dont la musique peut être entendue, donc produite. Donc voilà, il y a une espèce de retour à l'origine, qui est l'artiste en studio, qui sait que s'il ne fait une chanson de 6 minutes, il aura moins de chances d'être entendu que si elle fait 2 minutes. Et ça, c'est un truc je me questionne pas mal là-dessus. J'ai pas vraiment de réponse, je ne sais pas. mais en tout cas, ça m'interpelle.
Parce que demain, on pourrait imaginer que le support de la musique, si on refait un peu son histoire, il y a la phonographie, il y aura eu notamment l'épisode CD, et puis ce fichier téléchargeable, ouais. Puis le streaming. Ouais. Et aujourd'hui, finalement, le support de diffusion, est-ce que c'est pas le fragmentaire des réseaux sociaux, justement, le 35 secondes?
Non, je pense que le streaming a une belle vie devant lui. Je trouve que c'est un format merveilleux parce qu'il permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un vrai questionnement à approfondir et à se poser sur la manière dont les artistes sont rémunérés. Je pense que indirectement, ça influe la création. Ça influe sur la création, ça a un impact là-dessus. Je pense que la question, elle est là, mais le format lui-même, il est génial.
Le format du streaming?
Bah ouais, bien sûr, c'est extraordinaire d'avoir tout à disposition. Après, même ça, je le questionne un peu. Est-ce qu'on doit forcément avoir accès à tout?
Même ça, je ne sais pas.
Même ça, je ne sais pas.
On va écouter une composition presque anachronique après le décor qu'on vient de poser. C'est le prologue que vous avez écrit pour les Jeux Olympiques. Prologue, une pièce contemporaine de Woodkid composée donc pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça commencera dès le 8 août. Hein. Il y a un concert gratuit à Paris au Trocadéro pour le passage de la flamme en France, de Tokyo à Paris. Pour vous, Woodkid, qui avait travaillé avec la maîtrise de Radio France, comment est-ce que vous l'avez approché, cet enjeu-là de qui est un peu un rêve mégalo d'enfant de faire la musique des JO?
Ah oui, c'est pour moi, il y a quelque chose d'un peu ultime là-dedans. C'est un honneur fou. J'ai toujours un petit peu du mal à réaliser qu'on a fait ça. C'est une première prise de parole qui définit un peu ce que c'est que moi, à titre personnel, ma vision de l'esprit sportif, l'esprit olympique aussi. Et puis je pense pour 2024, c'est aussi un moyen de parler de 2024, c'est un moyen de prendre la parole artistiquement et de dire que, évidemment, qu'autour de l'enjeu sportif, il y a aussi un enjeu artistique qui va se mettre en place. Et voilà, c'est donc une première prise de parole. C'est une pièce qui est assez longue. qui sera présenté pendant le ce qu'on appelle le handover, qui est un segment de la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo, olympiques et aussi paralympiques, et pendant lequel le drapeau et la flamme est passé à Paris en fait.
Alors, on l'entendait tout à l'heure dans le journal de 18h, la politisation du sport et la possibilité pour les athlètes d'exprimer leurs convictions, ça progresse, on va dire, parce que ça va être un petit peu plus autorisé qu'à l'époque des Tommy Smith, hein, qui levaient le poing pour soutenir les Black Panthers et qui ont vu leur carrière destituée. Comment est-ce que vous voyez ce virage de la politisation du sport ?
Je pense que c'est la politisation du monde. Moi, je le vois aussi dans mon métier. C'est-à-dire que le monde se politise. Ça devient, pour moi, compliqué, vraiment compliqué de pas avoir une opinion. Ça veut pas dire qu'il faut l'exprimer. Ça veut pas dire qu'il faut pas la remettre en question. Ça veut pas dire qu'il faut forcément l'étaler sur les réseaux sociaux à tout va. Mais je trouve que c'est compliqué d'être anesthésié aujourd'hui. Quand on voit le monde et quand on voit le virage qu'on est en train de prendre, c'est compliqué. Pour moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, les gens qui n'ont pas d'opinion, ou en tout cas qui ne cherchent pas à en formuler une. Je trouve que c'est, malheureusement, si on reprend les thématiques de l'album, qui sont les responsabilités individuelles et collectives, notamment face aux défis climatiques, aux défis, pour ma part, de l'homophobie, parce que c'est une thématique qui est très importante pour moi, j'ai du mal avec les gens qui se cachent, qui n'en parlent pas.
Il y a une neutralité qui n'en est pas une, en fait.
Moi, je crois à cette idée que le silence peut être soit une forme d'extrême intelligence, mais souvent une forme un tout petit peu de fuite. Moi, j'aime le silence quand il est baigné d'intelligence. Il y a des silences qui sont très intelligents, il y a des silences qui sont sublimes. Il y a beaucoup de silences qui sont pénibles.
Johan Lemoine, alias Woodkid, est tenu de Fourvière en concert ce soir et dans le Grand Théâtre, bien sûr. Retour à la maison après un show mémorable en 2014. Ça faisait 7 ans que vous n'étiez pas venu jouer ici. Woodkid, vous êtes excité, angoissé?
Excité, alors c'est un peu particulier parce qu'on est en direct à la radio ce soir, donc il va être un tout petit peu plus stressant cela. Mais les deux derniers d'hier et d'avant-hier, ça a été vraiment des très beaux moments pour moi et j'espère pour le public aussi. Donc je suis très très heureux d'être là, ouais, évidemment.
Et vous avez des souvenirs vous ici aussi en tant que spectateur,
ouais,
des frissons,
ouais,
même.
Bien sûr.
Au Nid de Fourvière, lesquels?
Mon dernier frisson, c'est Christine and the Queens, que je suis venu voir parce que j'ai encore de la famille ici, donc je viens souvent à Lyon. Et en l'occurrence, on est venu voir Christine parce que mes parents m'ont demandé. Donc j'ai appelé...
Vous avez emmené Christine and the Queens?
Non, j'ai amené mes parents voir Christine and the Queens. On avait adoré ce concert, qui était vraiment génial.
Christine est redevenue Christine.
C'était Christine and the Queens à l'époque.
Et est-ce que ce soir, vous pourriez nous donner quelques indices, pour ceux qui n'ont pas encore vu le concert, de la façon dont ça va se présenter sur scène, à la fois les tableaux, les danses,
ouais. Alors c'est un concert hybride de mon premier et de mon dernier album S16. C'est un mélange de chansons toujours très pour moi un peu émo, des titres de songwriting, et puis il y a un peu des, comme on dit, des bangers, quoi, des chansons un peu qui font sauter les gens, qui font danser. J'aime beaucoup cette schizophrénie en fait du show. Et puis c'est un show très visuel. Alors ça, les gens qui écoutent France Inter ne le verront pas, il faudra venir me voir.
Mais je tenterai de leur décrire.
Je suis en tournée dans toute la France cet automne.
Y compris le 31 octobre au Zénith de Toulouse et les 2 et 4 novembre à la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
Ah merci, c'est pas mal.
Voilà, bien,
on s'enchaîne, j'ai même pas de conducteur. C'est un truc de dingue d'être là.
Est-ce que on va essayer de faire un petit jeu ensemble, mais je pense que le public devinera. C'est le point commun entre Lana Del Rey, Drake, Katy Perry, Taylor Swift et Harry Styles. Fresh to death and sick as cancer.
It's my birthday, I get high if I want to. Can't deny that I want you, but I lie if I have to. Cause you don't say you love me to your friends when they ask you.
Et il chante sur Harry Styles à l'instant. C'est bon la pop, hein.
J'adore cette chanson. Ça a été un gros coup de cœur la prochaine.
Signe des temps, sign of the times.
Ouais. J'ai eu un énorme crush sur cette chanson la première fois que je l'ai entendue.
Alors le point commun entre tous ces artistes, donc Lana Del Rey, Katy Perry, Taylor Swift, que vous avez chanté aussi, Harry Styles, Drake, c'est que vous avez fait leur clip. Vous le voyez comment cet avenir du clip Woodkid?
Ça dépend en fait ce qu'on appelle le clip. C'est déjà une forme qui est déjà très plurielle. Ça peut être un court-métrage, comme ça peut être un clip de danse, comme ça peut être un film de danse, comme ça peut être un film de une espèce d'expérimentation 3D. Enfin, ça peut déjà être beaucoup de choses en soi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un clip? Si c'est un média visuel qui permet la promotion d'une chanson, alors non, il a une longue vie, sauf qu'il n'existe peut-être plus dans sa forme MTV-esque, on va dire.
La forme qui est apparue, on va dire, principalement,
oui, voilà.
Majoritairement, fin 80, début 90.
Oui. Est-ce qu'une story sur Instagram, est-ce qu'un format TikTok, est-ce que ça peut être considéré comme du clip? Moi, il y a un petit côté un peu has-been chez moi qui a tendance à dire, pas sûr. Mais en même temps, il faut que le monde avance. Donc, l'important, c'est qu'il y ait de la création. Si les choses sont intelligentes et si les choses ont des choses à dire, si les œuvres ont des choses à dire, moi ça me va. Moi j'aime mon époque tant qu'elle a des choses à dire. Si par contre il y a quelque chose de nihiliste dans tout ça et de vain, ça me pose un peu plus de problème. Mais je vois quand même des choses assez assez cool sur ces formats. Moi je suis pas très à l'aise avec ces formats, c'est j'ai pas appris à créer là-dedans, mais je vois des choses qui me fascinent.
Vous y avez apporté de la mise en scène, de l'animation que vous aviez développée. Comment est-ce que vous voyez justement cet avenir de l'image?
Moi, très je vois de manière très excitante. Moi, j'ai grandi avec les machines et les ordinateurs. Je suis un passionné de programmation, d'intelligence artificielle. Je travaille beaucoup sur mes softs, de 3D, tout ça, tous les visuels du live. C'est des visuels que j'ai créés et je m'appuie beaucoup sur la technologie. La technologie, elle avance très vite, donc forcément, ça m'excite. Tout l'avènement de la crypto, des NFT, etc. Tout ça, c'est un truc qui m'excite beaucoup parce que ça met en avant des artistes et un certain type d'artistes qui sont vraiment ancrés dans leur époque et qui regardent pas dans le rétroviseur. Donc ça moi je suis plutôt pour. Et puis moi je suis fasciné par toutes les questions de réalité et de fiction,
de réalité augmentée, je crois,
de réalité
plus que
augmentée,
réalité virtuelle,
de réalité fiction, d'illusion, de toutes les questions de ouais, d'intelligence artificielle, tous ces trucs-là, le transhumanisme, c'est des thèmes qui me fascinent parce qu'on peut aussi y voir des choses très lumineuses et très positives. On a une vision du futur et du futur technologique dans la culture un peu hémisphère nord-européenne, qui est un tout petit peu, justement, dystopique, qui est toujours associé à l'idée de la machine destructrice, de Terminator, de tout ça, etc.
Alors la machine remplaciste aussi.
Oui,
pour
voilà,
les robots.
Exactement. Alors que, c'est très facile de changer son mindset, de changer son point de vue par rapport à tout ça. Si on le regarde dans la culture asiatique, c'est aussi vu d'une manière très neutre. La technologie, elle est juste en fait une arme des humains. Donc une arme, ça peut être une arme qui sert à défendre comme une arme qui sert à attaquer.
On va finir cette analyse de l'image de demain sur une phrase de votre mentor, Philip Glass. Lorsqu'on associe une image à un son, c'est toujours l'image qui gagne. On écoute Philip Glass.
C'est le son qui gagne.
Le son qui gagne.
C'est toujours le son qui gagne.
The balances always have to be changed because the solo instruments get so. It usually takes a number of performances before you get the balance right. People are used to recordings where you, when they record the concerto, they record the soloist on top of the orchestra. But in reality, it has to balance with the orchestra acoustically. You can't do that in the concert hall. So, and then everybody is affected by that, including the composer. So you begin to think, it's going to sound louder than it is, and then when you hear it, said, "Oh, this is not the reality." This is that you have to change a lot of things.
Philip Glass, cet extrait du documentaire Philip Glass, Looking Glass de Eric Darmon en 2004. Il raconte, Philip Glass, que les instruments solistes sont souvent trop présents parce que les gens, en fait, ils enregistrent toujours le soliste par-dessus l'orchestre, alors qu'il faudrait mêler les deux ensemble pour obtenir un équilibre acoustique et que souvent, par rapport à ce qu'on a écrit, il faut tout recommencer. C'est votre mentor et vous êtes évidemment d'accord.
Oui, moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce qu'il dit. Avec Glass, bon, je deviens presque fatigué de parler de Glass parce que c'est quelqu'un qui a tellement influencé mon travail et que j'ai beau avoir tant d'influence par la suite et de rencontres musicales et je suis toujours revenu à Glass. Et je n'arrive pas à m'en détacher. J'ai jamais trouvé une musique qui me fascinait plus que la sienne. Et le fait d'avoir pu chanter pour lui, de passer du temps avec lui, etc., c'est pour moi c'est un pilier. On parlait tout à l'heure de la science, par exemple. Dans ma vie, il y a peut-être la science et il y a Philip Glass. Voilà, Philip Glass, c'est quelqu'un dont l'esthétique et la philosophie et aussi la manière dont il s'est positionné dans son époque. Il faut le remettre dans les années 70, le mouvement minimaliste new-yorkais. C'est quelqu'un qui a été traité extrêmement mal par ses contemporains parce qu'il faisait de la musique de film, par exemple, qui était considéré à l'époque comme le mouvement le plus commercial qu'on pouvait imaginer pour un compositeur et pour ses pairs qui étaient des compositeurs de musique contemporaine, etc. On pense à Boulez, on pense à toute cette école-là.
Il avait été élève de Nadia Boulanger.
De Boulanger, exactement, tout ça. Et toute cette clique-là, en fait, ne supportait pas cette idée-là. Et aujourd'hui, le temps a fait son œuvre et en fait, c'est un modèle pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui me bouleverse. Et puis c'est quelqu'un qui, voilà, allie l'idée d'une approche scientifique très sonore de la composition. C'est quelqu'un qui parle de son. Là, il en parle dans l'interview, mais même dans ses associations de pupitres, il y a vraiment un travail qui est fait sur le son plus que sur la composition et la musique. Et c'est quelqu'un qui a aussi une très, très grande approche de l'image à travers son son. On pensait au film de Godfrey Reggio, etc. C'est Bob Wilson, etc. L'image fait partie de sa musique.
Et vous l'avez toujours un peu au-dessus de l'épaule, Philip Glass, quand
il est toujours là. Il est toujours là et j'essaie de le chasser beaucoup.
Philippe, ça suffit.
Ça suffit, Philippe, tais-toi.
Alors, elle nous vient de nous rejoindre, Cassidy, après un problème de transport. Ça arrive pour quelqu'un qui écrit des chansons sur les transports amoureux. Cassidy sur France Inter avec Souterrain, extrait de son deuxième album Les gens heureux, et ça raconte une histoire de coup de foudre lesbien dans le métro. Un monde nouveau en direct du festival Les Nuits de Fourvière avec Johan Lemoine, alias Woodkid, et Cassidy justement, bonjour et bonsoir, bonjour. Qui vient de nous rejoindre. Vous allez jouer demain en première partie de C'est la Sou ici aux Nuits de Fourvière. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre dans les transports en nous rejoignant?
Non, j'étais toute seule dans ma voiture dans les bouchons, c'était pas très sexy.
Bon, d'accord. Bon, peut-être peut-être quelqu'un comme ça qui s'arrête au feu rouge, un regard, ouais. Un échange, non. Alors, vous appelez Pauline Le Keniec, c'est votre nom dans la vraie vie, mais Cassidy, c'est votre blaze dans la rue, c'est ça?
Oui, je sais pas où vous avez trouvé l'info, mais oui, c'est un peu l'histoire que je raconte, que c'était pour taguer dans la rue à une époque où ça m'amusait, donc voilà.
Et vous avez continué à taguer? C'est toujours, il y a du Cassidy dans les rues de Lyon ou pas?
Non, il doit y avoir des stickers, mais pas de tag. Non.
Alors, vous avez déjà joué ici aux Nuits de Fourvière, avec un groupe qui s'appelle Satellite Jockey. Vous êtes lyonnaise, vous êtes à domicile, donc pas d'anxiété non plus, comme Woodkid, de l'excitation.
Ben ouais, en plus d'avoir déjà joué, c'est cool.
Vous êtes auteur, compositrice, interprète, pianiste classique et jazz de formation, guitariste, vous avez été aussi batteuse au sein de Tôle Froide, un groupe de synthé punk. Vous faites de la musique en fait depuis l'âge de 7 ans et globalement vous militez pour que les filles s'emparent le plus possible et le plus tôt possible des instruments.
C'est ça?
Ben ouais, carrément.
Pourquoi particulièrement la guitare électrique?
Bah en fait, il y a quelques années, j'ai commencé à essayer de rassembler un peu des, enfin de faire des statistiques, enfin de façon modeste, sur Lyon, dans la catégorie groupe de pop, rock, enfin dans les groupes que je côtoyais en gros.
La scène un peu un indie,
voilà,
on va dire,
la scène indie rock, enfin même pas forcément, non, je prenais les groupes de métal aussi. Et en fait, c'était pour pouvoir sortir des chiffres et dire aux personnes qui me disaient mais si, je connais telle fille, et je connais telle fille, pour leur dire bah non, tu vois. Sur l'échelle de Lyon, quand on fait des rapides calculs, on arrive à 4 guitaristes femmes sur 700 personnes recensées, du coup, qui ne font que de la guitare sur scène. Et du coup, c'est vrai que c'était une façon pour moi de mettre des trucs en évidence comme ça. Et en fait, la guitare électrique, c'était vraiment l'instrument pas du tout investi par les filles ou gardé par les garçons. C'est le coup, comment on voit les choses. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un truc avec la guitare, mais j'ai bon espoir que ça change avec les générations d'aujourd'hui qui jouent de la guitare électrique, quoi. Les filles jouent de la guitare, donc c'est cool.
Et un patin, une paire de patins et une crosse, ça peut être efficace aussi pour les filles, puisque vous faites du roller derby.
J'en ai
fait. Et ouais. Vous en avez fait. C'est un sport de demain, ça, le roller derby. C'est un sport féminin, féministe.
Ouais, c'est un sport super cool.
Vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est?
Alors, moi, je suis vraiment pas la plus douée parce qu'en fait, j'ai arrêté. J'avais vraiment trop peur de me casser un poignet, donc j'ai choisi le piano. Ouais, non, j'ai eu vraiment trop peur de pas pouvoir faire de piano pendant un moment. Du coup, j'ai arrêté. Mais alors, j'ai même pas passé les tests, donc je connais pas toutes les règles, donc je suis vraiment nulle. Il y en a beaucoup de règles. Mais non, c'est un super sport d'équipe et c'est un super sport dans lequel justement les femmes peuvent s'épanouir et parce qu'il y a un super esprit de sororité et c'est assez rare en fait dans les sports co, j'ai l'impression.
Dans les sports collectifs, donc ouais. Un esprit voilà de sororité, ça veut dire voilà de solidarité. On
ouais, bah de fraternité et au de féminin. Fraternité et au du féminin, coup, donc, voilà. Ouais, c'est vraiment hyper cool.
Alors le deuxième album, donc dont on a écouté un extrait, Souterrain, Les gens heureux, il a fleuri au printemps, il est optimiste, il est chasse spleen dans un contexte où la jeunesse a plutôt le spleen et ça se traduit même musicalement dans beaucoup de disques. C'est militant pour vous l'optimisme?
Bah c'est pour moi en fait, j'ai quand même tendance à faire des chansons très tristes ou très mélancoliques, du coup je me force un peu à essayer de faire des trucs joyeux. Ouais, j'ai essayé de faire quelques titres vraiment où 100% bonheur, mais je crois que j'y arrive pas vraiment non plus.
Ah, c'est un album faussement optimiste, ouais. Alors, qui essaye de...
Essaye de.
Demain, je me lèverai avec un sourire nouveau, chantez-vous sur Avec le vent, on écoute. Avec le vent, donc toujours extrait des gens heureux. Demain, vous l'associez à quoi ce mot, Cassidy?
C'est assez incertain. J'essaie de pas trop. Enfin, j'ai été assez angoissée ces dernières années par l'avenir d'un point de vue écologique associée à une prise de conscience vraiment forte politique et écologique. Écologiste, et du coup j'essaye de plus trop angoisser sur ça et de plutôt construire des choses et d'essayer de... Moi j'habite dans un petit village à la campagne et c'est un truc qui me fait assez... qui me rassure assez de me dire voilà, ce genre d'échelle de village où on peut construire des choses, ça c'est un truc qui me rassure, donc j'essaie de penser à ça en pensant à demain. Parce que c'est vrai que sinon quand je pense à tout le reste, ça je trouve que c'est... Enfin je sais pas, ça pèse quoi, je sais pas.
Raconter des histoires, mais des histoires crédibles, c'est votre credo.
Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je me vois pas trop, je sais pas. Ouais, je suis assez terre à terre en fait, je crois dans le fond, même si j'aime bien la SF ou les trucs comme ça.
Et votre musique, elle est pas terre à terre pour le coup. Elle est baroque. Elle est influencée par tout à l'heure Woodkid parlait de piliers. Vous en avez trois. C'est Jean-Sébastien Bach, les Beatles et François de Roubaix. Est-ce que je sais pas si les trois ils sont derrière votre épaule quand vous composez. Mais oui, il y a vraiment une couleur baroque. On l'a entendu hein, dans le titre qu'on a écouté tout à l'heure avec le vent. C'est ça finalement. C'est baroque peut-être l'adjectif de l'époque.
Une époque baroque. Ouais, je sais pas. Alors par rapport à la musique baroque, je saurais pas trop faire le lien, mais moi, j'aime beaucoup la musique baroque, en tout cas, ça c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que l'époque est baroque au sens où ça. Enfin, c'est vrai que moi, je me sens un peu, je sais pas, dépassée. Je suis un peu réac, quoi, sur les bords. Du coup.
C'est-à-dire réac sur les bords.
Bah, je sais pas, j'ai un peu du mal à suivre, quoi, le flow de technologie qui avance et de choses dans le monde qui se passent, quoi. Je m'informe vachement, mais ça me semble énorme, quoi.
Et donc, vous avez décidé de vous mettre dans une bulle au moment où vous avez composé Les gens heureux?
Non, c'était.
Ça pénètre quand même votre inspiration?
Non, justement, Les gens heureux, ça parle de comment essayer de s'en sortir malgré tout ça. Et du coup, c'est l'idée de l'album, c'était plutôt de parler, voilà, des choses très, très terre à terre, les relations d'amitié fortes qui nous portent et nous procurent des émotions aussi intenses qu'avec des relations d'amour, je pense. Et puis voilà, les rencontres avec des gens heureux, les gens super, c'était ça un peu l'idée, c'était de trouver du positif dans tout ce que je trouvais négatif. Et ça sert pour moi, c'est voilà les relations humaines, les amis, quoi.
Le positif, c'est le négatif, c'est positif. C'est ce qu'a dit Philippe Catherine ici au Nid de Fourmière quand il a fait son concert et que des musiciens sont sortis d'un grand nez gonflable. Il a fait un test PCR sur scène et il a dit voilà. Et ben le négatif aujourd'hui, c'est positif. Vous avez un point commun avec Woodkid, Yoann Lemoine, c'est que vous êtes aussi multipiste. Vous composez aussi des pièces de théâtre, des vidéos. Vous pensez l'un et l'autre que c'est ça. C'est l'artiste de demain, c'est un artiste 360, voire plus. Multi-support, multi-piste.
Bah, moi, en tout cas, ce que j'aime faire, c'est composer de la musique. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup composer de la musique pour l'image. C'est vraiment, quand je regarde une vidéo pour laquelle je dois composer le son, c'est un truc que j'adore faire. Ça me parle direct et j'ai rapidement des choses qui viennent. Et je trouve que composer une chanson, c'est une chose. Composer une musique qui accompagne un discours, c'est encore autre chose. Enfin voilà, c'est différentes façons d'exprimer la musique, quoi. Et pour moi, c'est un plaisir, quoi, d'explorer toutes ces palettes possibles.
Vous, Yoann Lemoine, Woodkid, l'artiste comme ça que vous êtes, c'est-à-dire qui est à peu près sur tous les terrains créatifs, c'est pas tous encore. Vous n'avez pas encore fait votre premier long métrage, mais on attend. C'est un profil comme ça de l'artiste de demain ou c'est une caricature?
Non, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire si on veut être autonome, je crois, de plus en plus. Mais moi, je vais toujours avoir besoin d'un violoniste qui passe sa vie à ça et à le perfectionner. Ça peut être un choix de vie aussi de devenir un expert dans un domaine. Je pense que c'est plus une histoire de personnalité. Par contre, c'est vrai qu'il est plus dur d'être autonome quand on ne sait pas se diversifier. Le monde demande un peu ça. Le monde artistique demande un peu ça aujourd'hui.
C'est pour survivre, en fait.
C'est pour survivre à la compétence des gens. Parce que les gens sont de moins en moins compétents. Faut aussi comprendre ça.
C'est votre côté réac à vous aussi.
Non, mais c'est pas forcément. C'est la réalité de l'industrie. C'est qu'elle va tellement vite que c'est très difficile d'être compétent. Ça demande un niveau de travail et de d'outillage qui est presque surhumain parfois. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point l'industrie. Moi, je fais parler musical et vidéo parce que c'est les deux mondes dans lesquels j'évolue. Mais la vitesse à laquelle ça va. Il faut avoir un niveau d'adaptation qui est surréaliste. Donc forcément, c'est difficile de rester compétent longtemps. Donc forcément, en tant qu'artiste, il faut s'outiller et il faut updater tout le temps. C'est pas seulement savoir faire plein de choses, c'est actualiser tout le temps. Voilà, ça demande ça. Mais voilà, moi j'aurais toujours besoin d'un pianiste qui passe jour et nuit dans sa cave à le faire et qui le fera mille fois mieux que moi.
Alors, il y a un format qui traverse le temps, hein, selon vous, c'est le live qui résiste un peu à toutes les transformations, le concert. Et puis, il y a aussi un objet, c'est le livre. Et je vous ai demandé, Yoann Lemoine, Woodkid, de nous amener un livre ou de nous parler, en tout cas, de celui qui avait pu changer votre vie ou en tout cas qui peut aussi sauver des vies. Parce que je sais que vous pensez que les livres peuvent sauver des vies. On célèbre les 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre, qui a préservé justement le livre de la diversité et de l'exigence aussi. À un moment. Donc vous avez choisi quel livre salvateur?
Alors je ne sais pas s'il est salvateur pour moi, mais c'est un livre que je trouve important parce qu'il est facile à lire et parce qu'il est je pense que c'est une bombe atomique ce livre. C'est un livre d'un ami, en l'occurrence c'est Édouard Louis, et c'est Qui a tué mon père.
Sans point d'interrogation.
Voilà. c'est pour moi un livre qui se cache dans un autre livre. Et puis c'est bon, voilà, moi je maintenant le monde sait à quel point on s'aime très fort avec Edouard et que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément et on a d'ailleurs fait une petite intervention ensemble sur France Inter récemment.
Oui.
C'est quelqu'un qui voilà, ce livre il a la puissance d'être une déclaration d'amour un petit peu acerbe. Et que cette déclaration d'amour cache une vraie déclaration d'amour politique et une vraie déclaration de haine politique à la fois. Et pour moi, c'est un livre qui est très très fort.
Les bifaces comme votre utopie et votre dystopie dans Sixtine.
En fait, oui, c'est ce que j'aime, c'est qu'il utilise, il parle d'amour à travers tout ce qu'il n'aime pas chez son père. Il va définir l'amour par ça, pour que quand il explique qu'en fait, au-dessus de malgré tout ça, malgré cette incompréhension avec son père, il va y avoir l'injustice que son père a vécue est plus forte que tout ça, et c'est ça son amour envers son père.
On écoute Édouard Louis.
Et au fond, j'ai grandi entouré par des femmes, j'ai grandi avec des femmes, et ce qui fait que pour moi, la masculinité, elle est beaucoup plus exotique que la féminité. Et on voit bien que la question de l'identité, elle est très compliquée. On n'est pas forcément homme, on n'est pas forcément femme, on n'est pas forcément... les identités, elles sont beaucoup plus fluides que ça.
C'était sur France Inter, hein, à propos du livre qui concerne sa mère, cette fois, dans une interview récente. Et ça vous a inspiré, cette masculinité comme concept exotique, finalement?
Oui, enfin, moi j'ai beaucoup de choses à régler encore, etc., avec tous ces sujets-là. Je pense qu'on a tous un truc en tant qu'homme à régler, là. Je pense qu'il est temps. Mais... Ce qui me plaît dans ce qu'il dit, c'est que dans ces keywords un peu à la mode, il y a quand même des choses à apprendre. Ce truc de masculinité toxique, de réinvention de la masculinité, de genre, moi ça m'intéresse.
Merci Woodkid, vous allez voir.
Ah ouais, je finis là-dessus.
Finalement, okay. c'est comme ça, ces transformations à l'œuvre sur scène ce soir. On se retrouve à 22h en direct des Nuits de Fourvière. Et merci également à Cassidy qu'on retrouvera demain en première partie aux Nuits de Fourvière. Un monde nouveau, c'est déjà fini, mais on se retrouve demain avec le paysagiste Gilles Clément et l'électropollinisatrice de Polo et Pan. Merci à toute l'équipe et à la technique, notamment ce soir Thomas Robin et Nicolas Mathias.